Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifiée, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, il me tenait à cœur de vous présenter Victoria, la belle et douce Victoria qui est mannequin mais qui est aussi surfeuse professionnelle, et elle va nous faire entrer dans ces deux univers à sa façon, avec sa douceur et sa perspicacité. Bonne écoute! Alors, salut Victoria, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ?
Alors, bonjour Laurita, merci également de m'inviter sur ton podcast. Donc, je m'appelle Victoria Vergara, je suis française et je suis professionnelle en surf et mannequin.
Eh bien, avec ça, bon palmarès. Est-ce que tu as toujours été sportive et est-ce que tu as toujours été attirée par le milieu du mannequinat ? Je pense qu'on va faire les deux sur ce podcast, on va parler de mannequinat et de surf.
Ok, ça marche. Alors, oui, en fait, mes parents sont également surfeurs, donc j'ai été amenée à faire du surf et du sport très rapidement à l'âge de 4 ans, je montais sur le bodyboard de mon papa et on passait nos week-ends à la plage. Donc, ça a toujours été quelque chose qui a fait naturellement partie de mon quotidien et que, on va dire, mes parents m'ont beaucoup poussé là-dedans. J'ai fait pas mal de sport quand j'étais petite. J'ai beaucoup de sports différents, du judo, de la danse, de la gym. Mais le surf a toujours été une passion et quelque chose que je voyais plus qu'un sport. C'était vraiment notre évasion du week-end ou des vacances. Et en fait, à l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'en faire ma carrière. Je voulais parcourir le monde entier pour pouvoir surfer et faire ce que j'aimais le plus. Donc voilà, et le mannequinat, en fait, j'ai toujours aimé le fashion. Voilà, de ma grand-mère à ma maman, on a toujours aimé créer des vêtements et voilà, avoir les Vogue magazines à la maison, c'était quelque chose qui faisait aussi partie de nous. Donc j'avais ce côté un peu créateur, designer que ma mère pouvait avoir et aussi cette chance d'avoir, on va dire, les mensurations que les mannequins ont. Donc j'ai très vite commencé à faire des photos en fait pour mes sponsors de surf qui m'utilisaient en fait aussi bien en tant qu'athlète que mannequin. Donc j'ai à partir de 15 ans, c'est un peu là où tout s'est déclenché pour moi. J'ai en même temps que ma carrière professionnelle commencé cette carrière dans le mannequinat.
Ok, tu fais uniquement des photos de mannequins sport ou pas?
Alors non, au début c'était ça, c'était beaucoup ça, et aujourd'hui je défile sur les Fashion Week et je suis vraiment dans le mannequinat hors sport aussi pour faire de l'éditorial et tout ça, des choses qui ont rien à voir avec le monde du sport ou du surf, donc j'ai vraiment réussi à mixer ces deux carrières et voilà.
C'est fou, c'est juste dingue, je pense que des millions de femmes aimeraient faire ça, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à l'alimentation depuis le début et jusqu'à aujourd'hui ?
Bon, alors l'alimentation, c'est vrai que c'est, enfin, on va dire des gènes qui m'ont beaucoup aidée parce qu'honnêtement, je faisais pas tellement attention à ce que je mangeais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et passant des heures dans l'eau, on a faim et honnêtement, on se souciait pas trop de à quoi on pouvait ressembler si on mangeait des pâtes tous les jours. Donc c'était vraiment ça mon régime, c'était pâtes. Maintenant j'ai grandi et j'ai vraiment compris que ce qu'on mangeait, c'était ce qu'on est. Notre assiette se reflète sur notre corps. Donc j'ai appris, j'ai testé énormément de régimes différentes. Quand je parle de régime, c'est-à-dire soit sans gluten, soit vegan, soit végétarien, ouais. Je me suis jamais privée et j'ai jamais voulu faire ça non plus parce que pour moi c'est important et c'est aussi important d'avoir de l'énergie à côté. Donc peut-être que pour certains standards, malheureusement, les personnes peuvent penser qu'on ne mange plus ou qu'on ne mange pas pour arriver à décrocher des contrats dans la mode, mais moi ça n'a jamais été mon cas et justement j'étais toujours un peu contre ça, mais j'ai trouvé un équilibre aujourd'hui qui me permet justement de rester dans on va dire dans la norme du mannequinat et d'avoir de l'énergie. tout au long de ma pratique sportive. Donc aujourd'hui, ça fait un an que je suis végétarienne. J'ai trouvé que d'arrêter de manger de la viande, ça me donnait beaucoup plus d'énergie. J'étais moins ballonnée, moins fatiguée. Et puis mon corps s'est mis à fondre homogénéinement, en fait, on va dire, de quelques endroits. Pas que j'en ai besoin ou que j'avais nécessairement l'envie aussi, mais ça s'est fait vraiment tout naturellement. Donc j'étais plutôt contente parce qu'à la base, je faisais ça pour plus une valeur éthique et pour les animaux que pour mon apparence. Mais voilà, en voyageant énormément comme je peux le faire à travers ces deux carrières, c'est très difficile d'avoir une routine ou d'un régime spécial et s'y tenir, parce que quand on voyage dans le monde entier, on a la chance de découvrir de nouvelles traditions, de nouvelles cuisines, de nouvelles saveurs, et je suis quelqu'un d'assez curieuse, donc j'aime assez goûter à tout. Voilà, aujourd'hui, j'essaye de le faire sans y inclure de viande ou de poisson.
D'accord. Parce que oui, du coup, j'imagine que tu voyages beaucoup. Après, tu as, entre guillemets, la chance de pouvoir faire aussi beaucoup de sport, donc ça élimine aussi potentiellement ce que tu mangerais en plus. Mais par contre, du coup, est-ce que tu dirais que pour être mannequin, il ne faut pas forcément mourir de faim, quoi?
Oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui les critères et les standings sont aussi en train de changer. Quelqu'un qui ne mange pas ou qui se prive, peut-être que ça se verra pas physiquement, mais je pense que mentalement cette personne, déjà, elle n'est pas heureuse et elle peut pas être heureuse. Je pense que c'est quelque chose qui peut devenir aussi obsessionnel. Je le sais parce que moi-même j'ai expérimenté des phases, voilà, de ma jeunesse en grandissant. À essayer de faire attention. Quand je parlais du régime de vegan, j'essayais de faire attention pour voir ce que ça pouvait donner, et je me rendais compte que je devais me priver de tout et j'en étais pas heureuse. Et aujourd'hui, je pense que voilà, dans le mannequinat, on veut quand même des filles qui certes sont longilignes et fines, mais qui ne sont pas non plus, on va dire, maigres, et qui ont des muscles, et voilà, ouais. Je pense que c'est cool que ce soit en train de changer dans cette direction. Et pour arriver à avoir des muscles même fins, il faut manger et s'entretenir physiquement.
Carrément. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils vous le demandent, c'est une question très bête et novice, mais est-ce qu'ils vous demandent un poids particulier pour les défilés, des choses comme ça, ou une taille?
Alors, ils vont pas nous demander notre poids. Notre taille, c'est beaucoup sur la taille de grandeur. Donc, combien de mètres on... Enfin, combien de... quelle est notre taille? Maintenant, voilà, après, on doit certes donner nos mensurations, et c'est vrai que pour les défilés, oui, les tailles sont pas très grandes, c'est du 34-36, quoi. Donc, ça reste une catégorie de personnes, mais c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de filles qui ont toute forme de corps et aussi, on va dire, d'ethnicité, et ça, c'est quelque chose qui est hyper positif dans le milieu, et je trouve qu'on l'a beaucoup vu en 2020, donc j'espère que ça va durer dans les années qui...
Ouais, c'est clair, il était temps, j'ai envie de dire, il était temps que ça change. Alors, est-ce que, je sais que ça va être très difficile pour toi cette question, mais quelle est la journée type chez toi?
Non, alors c'est davantage plus évident cette année que ce fut les années précédentes. Cette année, j'ai pas pris l'avion une seule fois de l'année. Je suis restée au moins pendant un an, donc j'ai réussi à mettre en place une routine, et c'était quelque chose que je n'avais jamais eu dans ma vie. Donc je suis aujourd'hui capable de te raconter ma journée type. Donc tous les matins, je me lève et la première chose que je fais, c'est je fais chauffer de l'eau chaude et je bois du citron avec de l'eau chaude et du gingembre. C'est le premier petit rituel que je fais tous les matins. Et ensuite, je mets une tenue de sport et je commence une petite séance de yoga ou de pilates. Je me dis que si je le fais pas directement en me levant dans la journée, je vais me trouver des excuses tout au long de la journée pour pas le faire. Donc c'est le premier truc que je fais le matin. Ensuite, je déjeune et puis je vais voir les vagues. J'ai la chance de vivre quasiment sur la plage et de voir l'océan en me réveillant, donc ça dicte aussi beaucoup beaucoup ma journée en fonction de la marée, quel est le meilleur moment pour aller surfer. Et généralement, si c'est bien, je vais surfer, et ensuite voilà un lunch, et ensuite ça dépend vraiment, en fait, ouais, des vagues quand même. Mais généralement, j'essaye de surfer une à deux fois par jour. Et voilà, mon petit rituel journée type, c'est vraiment le matin, commencer par soit du yoga ou du pilates. Et ensuite, en fin de journée, j'aime bien voir des amis. On aime bien recevoir des amis à la maison, préparer un petit dîner. Parce que maintenant, j'ai eu la chance d'apprendre un petit peu à cuisiner pendant ce confinement. Donc c'est cool et puis ça permet de faire découvrir à mes amis que on peut, enfin que les plats végétariens peuvent avoir du goût aussi et que ce soit bon. Donc ça c'est un peu mon challenge de cette année et j'aime bien. Et voilà, je suis quelqu'un qui me couche assez tôt et qui mange assez tôt aussi. Je sais pas, j'aime pas m'endormir après avoir trop mangé. Donc j'essaye généralement de manger vers 19h, 19h30 et j'aime bien être dans mon lit avec soit un bon livre ou une bonne série, environ vers, on va dire, 21h30, 22h.
D'accord. Qu'est-ce que l'océan t'apporte? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de vertus, tu vois, à fréquenter les vagues.
Ouais.
Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte au quotidien?
Je pense que c'est vraiment un moyen pour moi, quand je suis dans l'océan, de m'évader et d'être créative avec, bien sûr, ma planche, mais... Mais c'est vraiment, ouais, se mettre la tête sous l'eau et plus rien entendre. Et ça fait du bien, c'est comme tu dis, thérapeutique. Et puis ça vide la tête. Et puis la mer te demande d'être humble, en fait. Il y a vraiment cette sensation que l'océan est bien plus fort que toi. Donc tu dois faire attention, tu dois le respecter aussi. Et si tu fais les choses bien, et ben justement, il t'offre de belles vagues pour t'exprimer et t'apporter de la joie. Et voilà, c'est un moyen de déconnecter. Et moi, j'aime beaucoup surfer ou aller me baigner avec des amis. Je préfère aussi partager ces moments-là que plus y aller toute seule. Donc non, c'est un petit moment d'évasion.
D'accord. Et alors, combien de temps tu dirais que ça prend pour être bon, on va dire, parce que bon, être pro, laisse tomber, mais être bon en surf ou en longboard, ce que tu fais d'ailleurs, si tu peux expliquer ce que c'est exactement la différence entre longboard, paddle et surf, je suis preneuse.
Ok, ça marche. Alors, la première question, pour combien de temps, je pense que ça prend du temps. Maintenant, aujourd'hui, si on trouve une bonne école, tu trouves un bon prof et qui te donne du matériel adapté, tu vas facilement arriver à te lever. Que tu sois une personne sportive ou pas, tu vas directement avoir les sensations. Le plus dur, c'est dans ce sport, c'est de comprendre l'océan, d'arriver à capter comment les courants marchent, les vagues, et d'arriver à être au bon endroit au bon moment. En fait, c'est beaucoup beaucoup de timing. Mais une fois sur la planche, je pense que c'est juste du travail et de la répétition. Mais c'est ça qui est assez fou dans ce sport, c'est qu'une vague, ça va être quelques secondes. Et en fait, c'est pendant ouais. quelques secondes là qu'on va devoir enregistrer et mémoriser des mouvements, des manœuvres à faire et les remettre en application après. Donc je pense que c'est ça qui prend le plus de temps. Mais pour quelqu'un qui veut essayer le surf, je pense que dès leur premier cours, avec le matériel adapté, donc c'est là où on peut commencer à vous parler du matériel, c'est assez facile de se lever. Donc en fait, oui, il y a différents types de planches dans le surf. Donc il y a le shortboard, donc c'est une petite planche qui sert à être assez rapide et on va dire radicale sur les vagues. Ensuite, il y a le longboard. Donc dans le longboard, il y a deux types de longboard. Il y a le longboard qu'on va dire performer, donc c'est une grande planche qui va être une planche qui va être plus grande qu'un shortboard, mais qui va avoir les mêmes spécificités, donc qui va servir à aller vite et à être radical. Et il y a le longboard classique, donc c'est moi la catégorie que je pratique. Et là, c'est plus en fait sur le style et sur le nose riding, donc c'est ça, de marcher pour aller sur l'avant de sa planche et être en fait les 10 doigts de pied à l'avant de sa planche et ne faire plus qu'un quasiment qu'avec la vague. En fait, on a vraiment une sensation où on vole et moi c'est ce qui m'a fait accrocher à cette discipline et c'est ce que j'ai aimé le plus dans le longboard. Donc c'est pour ça que je suis partie dans le longboard classique. C'est vraiment une sensation de danser en fait sur la vague, sur une fois qu'on est sur cette planche. Donc voilà, c'était mon kiff, celle que je préférais. Et ensuite, il y a le paddle. Donc le paddle, c'est des planches qui sont bien plus grosses et bien plus lourdes que le longboard. On a besoin d'une pagaie pour la faire avancer et on est tout de suite debout en fait. Alors que le longboard et le surf, il y a le take-off, donc c'est ce qu'on appelle se mettre debout, de passer à allongé pour en ramant pour essayer de prendre la vague, à se mettre debout assez rapidement pour voir glisser sur la vague debout.
Ok, que pour faire du longboard, il faut déjà tenir debout sur une planche de surf ou je peux commencer directement par le longboard?
Alors tu peux commencer directement par le longboard. En fait, plus la planche est grande et large et plus la planche va être stable et facile en fait. C'est pour ça que quand je parle de matériel adapté dans les écoles, en fait, généralement les gens ont tendance à vouloir avoir des petites planches parce que les grosses planches c'est effrayant. Mais en fait, les petites planches, c'est très difficile de partir sur une vague avec parce qu'il faut avoir de la force dans les bras pour pouvoir arriver à prendre la vague et avoir assez d'inertie pour que la vague te pousse. Et en fait, sur un longboard, c'est, on va dire, peut-être plus difficile à manier pour faire des figures et pour tourner qu'une petite planche, mais pour toute la phase de prendre la vague, arriver à se mettre debout et glisser le long de la vague tout simplement, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que je conseille à beaucoup de personnes aussi qui me demandent de commencer sur des longboards, de commencer sur des grandes planches. Et ensuite, s'ils veulent se diriger vers des shortboards et des planches plus petites, une fois après, ils peuvent passer le cap. Mais de commencer directement là-dessus, c'est compliqué.
Ok, c'est très clair. Du coup, j'ai du boulot, hein. On va pas se mentir. Bon, on va terminer sur des conseils. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le mannequinat et ensuite dans le surf? Du coup, dans le surf, tu l'as déjà dit, puisque tu disais qu'il fallait mieux s'équiper bien, enfin en tout cas, choisir la bonne école et choisir le bon matériel et décider la discipline qu'on veut pratiquer, mais du coup, dans le mannequinat plutôt.
Ouais, et puis dans le surf, je pense qu'il faut aussi être persévérant et être patient. C'est pas nous qui décidions de tous les facteurs, c'est quand même la nature avant tout. Donc il faut être patient et toujours, je pense, y aller avec le sourire et des amis et passer du bon temps quoi qu'il arrive. Et un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le mannequinat, il faut pas prendre les choses personnellement dans ce milieu. C'est ça le plus dur, je pense. Et ensuite, pareil, de y aller et de s'amuser sortir un peu de... Je pense que ça fait pas mal sortir de sa zone de confort et toujours s'écouter, quoi.
Ça me semble être un très bon conseil, pertinent. Cool, franchement, merci beaucoup. Je suis trop contente d'avoir pu t'avoir.
Avec plaisir.
C'était vraiment chouette. J'espère que ça va bien se passer avec l'orage. Tu habites à Osgore, n'est-ce pas?
Oui, j'habite à Osgore. On a une semaine de tempête et on a une autre semaine qui arrive. Donc bon, ça devrait aller.
Mais c'est bon signe pour toi, pour les vagues ou pas? Ou tu vas pas surfer en temps de tempête?
En fait, le surf, quand il y a beaucoup de vent, c'est pas top. Les vagues sont vraiment pas jolies, déchaînées, et c'est assez compliqué. Donc là, ouais, ça fait... J'ai pas surfé depuis une petite semaine, donc bon, ça fait pas de mal de faire une petite pause aussi de temps en temps, mais j'ai hâte de repartir à l'eau.
Juste, dernière question pour toi, quel est l'endroit le que tu préfères au monde pour surfer?
Ah, c'est tellement difficile de choisir un seul endroit. Le monde nous offre des vagues différentes et des lieux différents qui ont chacun et chacune quelque chose que j'apprécie. Donc, d'en choisir une, c'est très compliqué. Maintenant, j'ai la chance de grandir sur l'île de la Réunion et pour avoir parcouru le monde entier, je trouve qu'il n'y a pas plus beau et de meilleures vagues que là-bas. Donc, si je dois en choisir un, je dirais l'île de la Réunion, mais c'est injuste pour les belles vagues de Californie, d'Australie. Même au Japon, je vais dire la Réunion, mais dans le monde entier, il y a des endroits magnifiques.
Il faut explorer.
Ouais, voilà, exactement.
Disons qu'on peut commencer pour une valeur sûre, on peut aller à la Réunion, mais bon, il y a aussi Hawaï, le Japon, Bali, enfin voilà.
Ouais, il y a partout, et puis je pense que pour commencer, c'est peut-être mieux en eau chaude aussi qu'en eau froide.
Tu m'étonnes.
Il n'y a pas besoin de la combinaison et de tout l'attirail qui va avec, chaussons, gants et même parfois la cagoule. Donc, c'est quand même plus simple de juste y aller en maillot de bain dans l'eau chaude. Donc, si vous partez au chaud, je vous conseille d'essayer le surf là-bas plutôt qu'en France. Ce sera peut-être plus agréable au début, surtout qu'on passe pas mal de temps sous l'eau et dans l'eau quand on commence. Donc voilà.
Okay. Ouais, bah écoute, je prends bien volontiers ce conseil. Je te remercie beaucoup pour ton temps, c'était vraiment enrichissant. Et je te souhaite une belle continuation, puis à bientôt sur les réseaux probablement.
Eh ben c'est super gentil, merci beaucoup aussi de m'avoir écouté et d'avoir pensé à moi pour répondre à tes petites questions. Et à très bientôt sur les réseaux, belle continuation et à très vite.
Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cet échange avec Victoria. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram et je vous mets toutes ces informations dans les notes du podcast. À très vite.